With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est l'émission où on résume toute l'actu tech, internet et gadgets chaque semaine avec des invités formidables. Mais aujourd'hui c'est différent, pas pour l'invité formidable, mais pour le sujet, puisque comme de temps en temps on fait des épisodes spéciaux où on va parler d'un sujet spécifique, et aujourd'hui c'est le cas, puisqu'on va parler de HPC. Et qu'est-ce que c'est que les HPC ? Romuald est là pour nous expliquer tout ça. Moi, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous retrouver. Et ces épisodes spéciaux, c'est vraiment un truc auquel je prends beaucoup de plaisir. Bien sûr, j'aime beaucoup parler d'actu également. Mais les épisodes spéciaux, c'est le moment où on peut répondre aux questions qu'on se pose comme ça, qui sont toujours dans le background et pour lesquelles on n'a jamais vraiment le temps d'avoir les réponses. Heureusement, là, on a Romuald qui est avec nous et qui va pouvoir répondre à absolument toutes nos questions sur... Alors, j'ai dit HPC. Je pense que dans le titre, on aura un titre un petit peu plus explicite. Mais donc, on va parler de supercalculateurs. Salut Romuald, bonjour, comment
bonjour
vas-tu
Patrick. Bien, merci. Merci de l'invitation.
Mais je suis extrêmement heureux, merci à toi d'être là et de nous prêter ton expertise. Donc on va parler de supercalculateurs aujourd'hui, on va se demander ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche, etc. etc. Avant ça, peut-être, juste pour, tu vois, bien se mettre en jambes, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, te présenter un petit peu ?
Eh ben oui, je suis ingénieur système HPC, donc ça veut dire que je m'occupe plus spécialement de toute la partie logiciel associé à l'installation et à l'utilisation des supercalculateurs. Et j'ai pendant plusieurs années installé ce genre de machine pour différents clients dans les domaines industriels, universitaires et de la défense. Et du coup, c'est pour ça que j'ai proposé à Patrick de faire cet épisode.
Et tu dis installer ces appareils, tu parles un petit peu de matériel, mais tu parles aussi beaucoup de logiciel. Toi, tu es plutôt du côté logiciel. Ouais.
Voilà, la partie logiciel est très imbriquée avec la partie matérielle, parce que le but, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement optimisé. Mais moi, je m'occupais principalement de tout ce qui est installation des firmwares et de toute la couche logicielle qui permet aux applications... après des utilisateurs de fonctionner de façon optimale sur ces machines.
On va parler de plein de trucs super intéressants, on va parler des Geekbench, des gens qui ont beaucoup d'argent avec ce genre de matériel, on va parler à quoi ça sert, est-ce que ça sert à faire tourner enfin Cyberpunk 2077 correctement par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui installent des jeux sur leur HPC, c'est la question que je veux te poser avant tout, enfin sur leur HPC, sur leur supercalculateur, mais on va peut-être commencer par la base, parce que là on est parti sur, on parle de HPC, termes techniques, tout ça. Dis-moi, Romuald, c'est quoi un supercalculateur ?
Alors déjà, pour HPC, l'acronyme veut dire High Performance Computing. Donc, un supercalculateur, c'est un ensemble de serveurs, des serveurs qui sont assez proches au final de ce qu'on peut imaginer pour un PC, mais par contre, ils sont conçus et optimisés de façon à avoir le maximum de puissance de calcul. Et cet ensemble de serveurs, donc de quelques-uns à quelques dizaines de milliers, ont besoin de fonctionner tous ensemble pour que les calculs puissent se passer le mieux possible et avec le plus de puissance efficace. Un supercalculateur, ça a donc besoin d'une grosse infrastructure, donc un data center, parce que ça va nécessiter beaucoup de puissance électrique. Du coup, qui dit puissance électrique dit aussi beaucoup de refroidissement à proposer. Donc, c'est des refroidissements soit par climatisation, soit par des systèmes de water cooling. Et en plus de cette puissance de calcul, c'est du matériel qui coûte très cher, évidemment, mais qui doit fonctionner pendant assez longtemps. Donc, il y a une très grosse partie maintenance qui est importante pour que les pannes n'handicapent pas la puissance de calcul, puisque quand on a plusieurs milliers de machines, forcément, il y a un pourcentage de chances non négligeable qu'il y en ait quelques-unes qui tombent en panne au fur et à mesure de la vie de la machine.
D'accord. Donc, bon, tu as parlé longtemps et en détail, et moi, ce que je retiens, c'est... Bah, c'est un gros ordinateur, quoi.
C'est
mais effectivement, bon, c'est un super calculateur, mais en même temps, bon, je schématise, mais en fait, je dis ça, mais c'est pas un gros ordinateur. C'est vraiment, on parle d'un centre de données. Alors, s'il y a 10 serveurs, peut-être qu'on peut les faire tenir dans une armoire, mais c'est vraiment un data center au même titre que on peut avoir des data centers pour, je sais pas, Google qui va faire ses recherches ou Apple qui fait son stockage. Sauf que là, c'est un data center qui est dédié, parce que tu parles de plusieurs milliers de serveurs. C'est un data center qui peut être énorme. Qui va être dédié au fait d'avoir de la puissance de calcul. C'est un petit peu une grosse carte graphique qui serait, enfin, une série de grosses cartes graphiques enchaînées les unes aux autres pour qu'elles puissent travailler ensemble. Donc c'est ça dont on parle physiquement. On va parler plus en détail de la nature des systèmes, mais c'est juste, si tu mets, j'en sais rien moi, 150 000 iPhones et que tu écris le bon logiciel dessus, eh ben, tu pourrais avoir un super calculateur aussi.
Ça pourrait. Après, y a quand même l'objectif d'optimiser la puissance électrique utilisée. Exactement. Et puis que les logiciels tournent correctement dessus. Mais il y a quelques années, il y avait des calculateurs qui avaient été conçus à base de PlayStation. Je crois que c'était des PlayStation 3. Donc il y a effectivement possibilité de détourner du matériel aussi pour faire du calcul. Mais le matériel dédié est souvent beaucoup plus efficace.
Justement, on parle de consommation électrique. Avec l'écologie qui devient une préoccupation de plus en plus importante, est-ce que tu as senti, toi, parce que ça fait un moment que tu travailles dans le milieu, est-ce que tu as senti cette préoccupation s'appliquer à la question des supercalculateurs? Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à dire, attends, est-ce qu'on a besoin d'avoir ces machines? Est-ce qu'on peut... j'imagine que la préoccupation, si elle se manifeste, c'est plus... comment est-ce qu'on peut refroidir sans ajouter de la consommation électrique? Mais comment ça se passe, tout ça?
Le matériel est de plus en plus optimisé pour essayer d'utiliser chaque watt de façon optimale. Et le plus gros du travail pour minimiser la perte d'électricité, c'est sur le refroidissement. Pendant longtemps, les refroidissements étaient par des systèmes de climatisation, donc ils consomment beaucoup pour refroidir, et du coup...
Quand tu dis climatisation, c'est vraiment genre, on refroidit l'air et on l'envoie dans la salle où sont les serveurs. C'est vraiment de l'air conditionné, quoi.
C'est ça. Initialement, ça a été beaucoup comme ça, par simplicité, parce que c'est ce qui est le plus simple à mettre en place. Mais on arrive très vite à des limites de consommation pour la partie climatisation, qui finalement consomme presque autant que la partie calcul, et du coup c'est assez inutile de perdre toute cette énergie. Et du coup la plupart des supercalculateurs maintenant utilisent des refroidissements à base de circuits d'eau qui sont eux-mêmes refroidis, et donc là on minimise beaucoup la quantité d'énergie qui est utilisée pour le refroidissement. Donc c'est de l'eau qui circule à l'intérieur des machines et qui emmagasine la chaleur, et ensuite on n'a plus d'utilité à climatiser autant la salle, mais on a juste besoin de refroidir cette eau. Et donc là, il y a des systèmes qui peuvent être presque sans apport d'énergie en utilisant un échangeur avec l'extérieur, donc des grandes tours aéro-réfrigérées à l'extérieur, ou alors des systèmes qui refroidissent activement, un peu comme une climatisation qui refroidirait, mais juste l'eau cette fois-ci.
D'accord. Par contre, j'imagine que pour la puissance des serveurs eux-mêmes, l'électricité dont ils ont besoin, là, il y a moins qui soit possible à faire. On peut optimiser, mais comme le but est d'avoir autant de puissance que possible et le plus de puissance possible, à un moment, ça va forcément consommer beaucoup d'électricité. Et là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, non?
C'est ça. Donc, le matériel peut, par la finesse de gravure et les choses comme ça, optimiser de mieux en mieux sa consommation. Mais l'objectif premier, c'est ce que tu disais, c'est d'avoir une puissance brute la plus forte possible. Donc la consommation des calculateurs en eux-mêmes augmente aussi avec le temps. Mais on arrive à densifier de plus en plus les machines et à minimiser l'énergie inutilement gaspillée. Et du coup, la puissance brute des calculateurs, quand on la ramène en termes de watts ou de kilowatts, est de mieux en mieux avec le temps.
Mais j'imagine que là, l'autre solution, ça va être de s'assurer qu'on utilise une électricité propre. Bon, mais ça concerne tous les domaines de la consommation, oui, oui. Donc on va pas forcément s'y attarder. Mais
après, oui. On pourra en parler parce qu'il y a un calculateur qui a été installé dans un pays que tu connais bien, en Finlande, Lumi, qui est déclaré fonctionnant 100% à l'énergie verte, à l'hydroélectricité. Donc sur le choix de l'emplacement et des façons d'utiliser l'électricité, on peut faire du travail, oui, pour avoir de l'électricité verte à chaque étape. Et un point qui est important, c'est que quand on refroidit avec de l'eau, l'eau qui est produite en sortie est de l'eau chaude, et cette eau chaude, elle peut être utilisée, il y a des centres de calcul qui utilisent cette eau chaude après pour chauffer par exemple des bureaux ou des systèmes d'eau dérivés. Donc il y a moyen de réutiliser et d'avoir finalement une rentabilisation de cette chaleur qui est produite.
Oui, plutôt que de l'évacuer et de la refroidir par des systèmes même verts, là, on la réutilise et ça évite d'utiliser une autre source de chaleur pour chauffer les bureaux ou ce genre de choses. C'est pas bête. Ça, c'est des problèmes qui se posent à tous les types de centres de données qui sont pas spécifiques aux supercalculateurs, mais qui, en même temps, pour cette spécificité, justement, de ce type de centre de données, sont peut-être encore plus importants parce que, vraiment, on insiste sur ce point. Un supercalculateur, le but, c'est d'avoir autant de puissance que possible. Et quand tu évoquais le fait que, avec moins d'une gravure plus fine, on va avoir une enveloppe thermique qui va être plus faible et donc moins de consommation d'électricité pour atteindre le même résultat. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre plus de processeurs en même temps et donc on va multiplier la consommation. Là, le but, c'est vraiment, c'est toujours un peu comme ça dans les centres de données, mais là encore plus, il faut faire tourner le truc autant que possible. Donc la question se pose peut-être encore plus que pour d'autres types de centres de serveurs de ce type-là. On va parler de l'utilité de faire bouillir les serveurs dans les supercalculateurs, et notamment justement le fait que ça peut servir à des choses qui aideront à comprendre et à combattre le réchauffement climatique. Mais j'aimerais qu'on continue à parler un petit peu de matériel encore, parce que ça, moi, en tant que bon geek qui a construit ses PC pendant longtemps, j'ai plein de questions sur ce sujet et ça m'intéresse beaucoup. La première, c'est comment ça fonctionne? Quelle est l'architecture vraiment des centres de serveurs? Est-ce qu'on a des processeurs qui sont spécialement designés pour ces machines? Ou est-ce que on peut simplement mettre une série, je parlais d'iPhone tout à l'heure, ou de processeurs Intel ou AMD collés les uns aux autres? Et là, c'est bon, si j'en achète assez, je peux faire moi-même mon propre supercalculateur. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Il suffit de les empiler et d'en avoir plus que le concurrent pour avoir un supercalculateur plus puissant. Ou alors, est-ce que c'est vraiment du matériel super spécifique, dédié, construit pour ça?
La plupart des calculateurs ont du matériel spécifique, mais l'architecture, ça reste une architecture de PC assez classique. C'est-à-dire que il faut un processeur, de la mémoire vive, une carte mère, et puis après du réseau. Au niveau des processeurs, La majorité des supercalculateurs font avec des processeurs de type x86. Donc, c'est les processeurs de même nature, on va dire, que ce qu'il y a dans les PC grand public, mais dans leur déclinaison pour le calcul et pour les serveurs. C'est-à-dire, c'est des processeurs qui ont souvent plus de cœurs et qui ont une capacité à gérer beaucoup plus de mémoire que ce qu'on utilise au quotidien.
C'est les trucs Xeon, ce genre de trucs, ou c'est
ça,
encore plus...
exactement.
Ouais, d'accord.
C'est des Xeon. Alors après, les Xeon, sur le pour optimiser la puissance, on prend souvent des Xeon très haut de gamme et du coup avec énormément de cœur. Chez AMD, c'est la série Epic. On a actuellement, pour donner un ordre de grandeur, jusqu'à 64 cœurs par processeur. Et sachant que la grande majorité des machines qui forment les calculateurs sont des systèmes avec deux processeurs par carte mère. Donc c'est du bisocket. Donc ça veut dire qu'on a actuellement jusqu'à 128 cœurs physiques sur une seule machine.
D'accord, sur un des serveurs, sur une des cartes mères.
Voilà.
Pour rappel, pardon, vas-y.
Oui, je voulais juste de citer aussi que il y a aussi de la concurrence. Il n'y a pas que Intel et AMD. On a aussi des calculateurs qui sont installés par IBM avec des processeurs en power. Donc ça, c'est spécifique à IBM, mais ça, il y a des machines qui sont très très puissantes qui sont installées avec ce système-là. Et on a de plus en plus de machines ARM qui arrivent, donc qui utilisent une architecture ARM, mais là pour le coup avec des processeurs très particuliers qui dans la pratique ressemblent assez peu à ceux de nos téléphones, même si le jeu d'instruction est sensiblement le même, mais là il y a beaucoup de travail pour avoir une puissance se rapprochant des processeurs d'Intel et d'AMD, donc c'est des très grosses puces.
La particularité des processeurs ARM, pour ceux qui savent pas, c'est les processeurs qui équipent traditionnellement les appareils mobiles, téléphones, tablettes, tout ça, et qui maintenant sont inclus chez Apple avec les processeurs M1 dans leurs ordinateurs de plus traditionnels. Mais leur particularité, c'est qu'ils arrivent à monter en puissance en conservant une consommation électrique faible. Mais ce que Apple dit un peu moins généralement, c'est que oui, ils consomment beaucoup moins, mais étant donné que sur les autres types de processeurs, on peut faire monter la puissance électrique fournie beaucoup plus haut, eh ben on peut quand même en brut avoir une puissance de calcul plus élevée, même si ça va finir par consommer. C'est-à-dire que pour obtenir deux fois plus de puissance avec un processeur Intel, je dis n'importe quoi, hein, mais pour symboliser, deux fois plus de puissance qu'un processeur ARM, il faut consommer quatre ou huit fois plus. Ben, je veux dire, deux fois plus de puissance de calcul, il faut consommer quatre ou huit fois plus de puissance électrique. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir plus de puissance traditionnellement avec les processeurs Intel. Donc, les solutions ARM, dans le cadre des supercalculateurs, j'imagine que ça pose des challenges quand même spécifiques, quoi.
Alors, au final, quand on parle des puissances délivrées par les processeurs, que ce soit les Xeon ou EPYC, quand on essaie de comparer avec les processeurs ARM qui sont utilisés dans les supercalculateurs, la différence de consommation se réduit beaucoup aussi, parce qu'on est obligé
on les pousse à fond, les ARM.
C'est ça. Et par contre, le plus gros du travail, que ce soit du coup pour les machines power d'IBM ou les processeurs ARM, c'est tout le travail après sur la partie optimisation des applications, qui du coup doivent être repensées pour fonctionner correctement sur ces processeurs. Donc il y a un travail aussi de compilation des applications pour qu'elles fonctionnent correctement sur les processeurs ARM. Donc même si la puissance brute peut être identique, le temps que la partie applicative s'adapte et soit aussi efficace sur ces processeurs que sur les processeurs x86 qui existent depuis très longtemps et qui sont utilisés depuis très longtemps dans ce domaine, voilà, il y a du travail. C'est pour ça que ARM n'arrive pas actuellement à envahir le marché des supercalculateurs autant qu'il a pu le faire sur les téléphones, par exemple, ou les choses comme ça.
D'accord. Et justement, on va parler peut-être un petit peu de partie logicielle à un moment, mais on n'a pas fini sur la partie matérielle, parce que en tant que fan de PC, de constructeur de PC et tout ça, on pense tout de suite processeur, combien il y a de cœurs, combien il y a de puissance, tout ça, quelle fréquence d'horloge, etc. Mais il y a d'autres points sur lesquels tu insistais qui sont hyper importants pour ce type de système. C'est d'une part le réseau et d'autre part le stockage, parce que ces deux-là doivent atteindre des vitesses qui sont complètement, là encore, spécifiques à ces systèmes-là et qui sont beaucoup plus élevés que ceux dont on peut avoir besoin dans des systèmes qu'on utilise à la maison, quoi. Donc pour le stockage et le réseau, c'est très, très spécial.
Oui, bah déjà, je parlais rapidement de la mémoire vive. Donc, en plus du processeur, on a dit qu'on avait jusqu'à, on va dire, 64 cœurs par, par processeur, avec deux processeurs, donc ça fait 128 cœurs. Il faut que ces processeurs soient adossés à beaucoup de mémoire vive, parce que ce serait inutile d'avoir beaucoup de cœurs, mais d'avoir que 4 gigas de RAM à côté. Donc, c'est des systèmes qui embarquent plusieurs centaines de gigas de mémoire vive.
On peut même avoir des centaines de gigas.
Oui, on est facilement à 250 ou 500 gigas de mémoire. Mmh. L'objectif étant d'avoir en fait le plus possible de gigaoctets de mémoire par cœur. Donc plus on met de cœurs, plus on va devoir ajouter de RAM à côté pour que ces cœurs aient de la mémoire vive à disposition pour pouvoir traiter des données.
Je précise pour les gens qui sont peut-être pas super spécialistes, toujours une chose à laquelle je m'attache dans ces émissions, la RAM, ce à quoi ça va servir, c'est que la mémoire vive, c'est les données sur lesquelles vont travailler le processeur. Si on a juste le processeur et pas de mémoire, le processeur, il peut pas, c'est comme, je sais pas, un moteur qui va pas avoir l'essence qu'on va lui envoyer, quoi. Il n'y a pas de réservoir d'essence. Il y a aussi le stockage, le stockage non volatile, les disques durs, les SSD, tout ça. Mais si on parle de RAM, c'est les données sur lesquelles sont en train de travailler spécifiquement le processeur. Et c'est pour ça que plus on a de cœurs, plus on a de processeurs, plus il en faut, quoi.
C'est ça. Et donc, on a même des machines pour des usages assez spécifiques qui peuvent avoir plusieurs téraoctets de RAM à disposition. C'est notamment utile quand on a besoin de mettre des très, très grands jeux de données en mémoire vive et qui seront après accédés de façon relativement aléatoire. Donc, on a des machines qui peuvent avoir plusieurs téraoctets de RAM.
D'accord.
Ça fait, c'est quelque chose, on a l'habitude de l'avoir en tant que stockage, effectivement, sous forme de SSD ou de disque dur. Mais là, non, c'est la quantité de RAM disponible au niveau du serveur.
Pour vous donner un ordre d'idée, un ordinateur classique, ça a généralement 8, 16 gigas de RAM, quelque chose comme ça. Donc, plusieurs téras, c'est... OK. Donc ça, c'est la mémoire. Et puis, j'imagine que c'est les derniers standards, enfin, les derniers types de RAM les plus rapides possibles.
Oui, oui, là, pour l'instant, on est sur la DDR4 en particulier. Mais...
D'accord.
Et donc, ouais. Tu me parlais du réseau et du stockage, effectivement. Donc, le but de toutes ces machines qu'on va faire fonctionner ensemble, effectivement, c'est qu'elles puissent travailler conjointement. Et donc, il faut effectivement qu'elles puissent dialoguer ensemble, puisque la plupart des supercalculateurs utilisent un système de calcul qu'on appelle distribué. Donc, ça veut dire que les différents serveurs vont travailler ensemble sur une même tâche. Donc, on va séparer cette tâche en plein de petits morceaux et on va donner chaque morceau à chacun des serveurs. Mais du coup, après, il faut que ces serveurs puissent communiquer les uns avec les autres pour se transmettre des messages. Donc, soit se transmettre des résultats de calcul, soit pour se dire à quel moment du calcul ils sont arrivés. Et donc, pour ça, on utilise des réseaux qui sont plus spécifiques que simplement un réseau Ethernet traditionnel. Donc, il y a ce réseau Ethernet qui peut permettre d'installer les machines et de faire de la surveillance et des choses comme ça. Mais on a des réseaux particulièrement efficaces comme l'InfiniBand, l'OmniPass, BXI ou Slingshot, c'est des noms commerciaux de différents systèmes réseau. Mais leur point commun, c'est d'avoir un très très grand débit. Donc on parle de 100 ou 200 gigasecondes pour le débit. Et surtout une très faible latence. C'est-à-dire qu'il faut que les messages ils arrivent le plus rapidement possible d'une machine à l'autre pour éviter que chaque machine attende le résultat de son voisin pour pouvoir continuer son propre calcul.
Du coup, tu parles... Oui, 200 gigabits seconde, c'est... bon, c'est genre
un
rêve,
réseau
ça.
Ethernet, c'est 1 gigabit seconde.
Ouais, voilà.
Là, on est voilà, entre 100 et 200. Actuellement, il y a du travail sur du 400 aussi.
Ouais, et en faible latence en plus. Donc, mais tu parlais du coup des tâches qui étaient divisées entre différentes machines avant de parler du stockage qui va encore avoir des capacités, des configurations, des spécificités incroyables, mais Quand tu parles de division des tâches entre les plusieurs machines, on va parler de calcul en parallèle, en fait, massivement parallèle. Et du coup, forcément, moi, ça me fait penser aux cartes graphiques. Et tu l'as pas évoqué, même si je me souviens que tu l'avais mis dans les notes quand on préparait l'émission. C'est pas intéressant, du coup, d'utiliser des cartes graphiques pour tous ces trucs, types de tâches? Ou qu'est-ce qui fait qu'il y en a pas, elles sont pas partout, puisqu'on a même pas, on en a même pas parlé au moment où on parlait des processeurs qu'on utilise?
Si, si, alors la partie carte graphique que nous on nomme souvent accélérateur, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans les supercalculateurs et notamment les supercalculateurs les plus efficaces en termes de consommation et les plus puissants en termes de force brute depuis plusieurs années sont des supercalculateurs qui sont équipés de cartes graphiques. Et effectivement, sur du calcul massivement parallèle, les cartes graphiques, alors c'est des cartes graphiques dédiées, donc c'est pas les RTX classiques, mais c'est les gammes, pareil, des gammes serveurs de Nvidia ou de AMD, sont très très efficaces pour ce genre de calcul. La limitation, c'est encore ce que je disais pour ARM, c'est la partie logicielle. Il faut que le logiciel soit capable d'utiliser le calcul sur GPU pour utiliser correctement cette puissance à disposition. Donc, tout dépend de la nature des calculs. Il y en a certains pour lesquels la partie GPU est très intéressante. Et dans ce cas-là, on va avoir un très, très gros gain en termes de rapidité de calcul et de puissance brute. Il y en a d'autres sur lesquels la nature du calcul est davantage adaptée à être utilisée sur processeur. Et dans ce cas-là, on reste sur une architecture avec juste processeur et mémoire. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est vraiment du calcul qui va être distribué sur un certain nombre de serveurs pour avoir le plus de processeurs à disposition. Mais effectivement, il y a de plus en plus de GPU dans les supercalculateurs et c'est un point qui évolue beaucoup et très vite ces dernières années.
Du coup, côté stockage, il y a un truc qui m'a beaucoup surpris, c'est les différents types de stockage qui peuvent être utilisés en fonction des besoins pour les données spécifiques. Rapidement, avant qu'on passe à la partie logicielle que je veux évoquer aussi, tu peux nous dire quel est cet éventail pour les trucs de stockage? Je pense qu'il y en a qui seront surpris.
Oui, bah le stockage, effectivement, pour que tous les serveurs puissent accéder au stockage en même temps, on utilise des stockages partagés. Ce stockage est souvent connecté au réseau rapide dont je parlais tout à l'heure, donc celui qui a une très grande bande passante et une très faible latence. Et du coup, ce stockage est accessible à tous les serveurs. Et après, le stockage en question, bah, il va falloir se poser la question de si on a besoin de beaucoup de capacité, de beaucoup de rapidité, de beaucoup de pérennité sur le stockage. Et donc, en fonction de ces questions-là, on va avoir différentes natures de matériel. Donc, si on veut énormément de performance, et c'est ce qui est utilisé pour vraiment faire la partie calcul pure, c'est-à-dire les données qui sont après lu par les serveurs pour être traité et ensuite redéposé sur le stockage. On va utiliser des SSD, des NVMe, donc des technologies très rapides en termes de bande passante. Le problème, c'est que la capacité souvent est assez faible, ou en tout cas le coût pour avoir une grande capacité est très élevé. Donc, en plus de ce stockage très rapide à base de SSD et de NVMe, on peut avoir du stockage un peu plus lent, mais avec beaucoup plus de capacité, avec des disques durs plus traditionnels. Alors souvent, c'est des déclinaisons avec une très grande capacité. On utilise facilement des disques durs de 16 Tera ou plus en fonction de ce qui arrive sur le marché pour avoir des très très grandes capacités de stockage. Les grands centres de données ont plusieurs pétaoctets de stockage de cette nature-là à mettre à disposition. Et donc là, c'est des données un peu plus froides dans le sens où elles seront accédées moins souvent par le calculateur. Et du coup, on peut se permettre qu'elles soient un peu moins rapides à accéder. C'est pour ça qu'on utilise des disques durs. Et le dernier type de matériel qui peut être utilisé,
c'est la bande magnétique. Donc là, c'est un stockage qui est assez éloigné de...
Là, on est dans les années 60, quoi. C'est des bandes magnétiques, c'est ça qui m'a surpris. C'est vraiment les bandes qui tournent sur les... Ouais, ouais, d'accord.
Alors, c'est ça, mais c'est de façon... Ça a quand même... Il y a eu beaucoup de travail quand même depuis cette époque-là, notamment d'accord. sur la densité et quand même la rapidité d'accès. Mais ça permet de stocker des quantités astronomiques de données. Parce que le fait d'avoir plusieurs milliers de serveurs qui travaillent conjointement, ça permet de produire beaucoup beaucoup de résultats, mais il faut absolument pouvoir les stocker, ces résultats. Et à l'inverse, il y a certains jeux de données, par exemple dans le domaine climatique ou choses comme ça, qui peuvent nécessiter des grandes capacités de stockage. Et du coup, il faut avoir cette possibilité d'avoir un très très grand volume. Alors le temps d'accès est très très lent. Puisque en fait les bandes magnétiques elles sont rangées dans des librairies, ça ressemble à une sorte de grande bibliothèque avec plein de cassettes avec des bandes magnétiques dedans et des bras robotisés qui vont chercher la bonne cassette dans laquelle il y a la bande magnétique qui nous intéresse. Donc il y a une partie mécanique, c'est beaucoup plus lent d'accès. Par contre voilà, le stockage est beaucoup plus pérenne et les quantités stockées sont beaucoup plus grandes.
J'imagine que du coup, il y a là aussi des spécificités même pour pour le stockage du niveau, enfin l'humidité, la chaleur de ces trucs-là, ou on s'en préoccupe pas à ce point-là pour le stockage des bandes, je veux dire.
Ah, pour le stockage des bandes, c'est dans des salles climatisées comme le reste des machines. Je ne sais pas spécialement s'il y a un travail particulier à faire dessus, mais après, de toute façon, les calculateurs sont dans des environnements pour lesquels on essaye effectivement de maîtriser la température, l'humidité. Ce qui n'est jamais bon, notamment pour tout ce qui est stockage, c'est les variations de température ou d'humidité. Donc le but, c'est de maintenir le plus stable possible l'environnement.
D'accord, je comprends. Avant de parler enfin des usages, je veux quand même qu'on évoque les systèmes au niveau logiciel. Donc, ça ne tourne pas sous Windows, toutes ces choses-là, c'est des systèmes très spécifiques, j'imagine. Ça se base sur Linux.
C'est ça.
Mais pareil, ce n'est pas un Red Hat qu'on télécharge et qu'on peut installer sur son PC. J'imagine que vous les customisez ou non, même pas ?
Alors, il y a beaucoup d'optimisation, mais au niveau du cœur du système d'exploitation, on utilise effectivement quasi exclusivement des bases Linux, à savoir par exemple Red Hat ou SUSE, qui sont parmi les plus utilisés. Le noyau du système d'exploitation est optimisé déjà par ces éditeurs-là. Après, il y a beaucoup de travail sur l'optimisation des drivers et des firmware de tous les équipements qu'il y a à l'intérieur de la machine pour pouvoir les faire communiquer le mieux possible. Mais d'un point de vue OS, on reste sur ces bases-là. Après, il y a du travail sur toutes les surcouches logicielles qu'on va rajouter par-dessus, effectivement, pour que toutes les machines puissent communiquer correctement ensemble. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont très spécifiques au domaine des supercalculateurs.
D'accord.
Tu veux que j'en dise plus là-dessus ?
Oui. Est-ce que c'est une application, du coup, que vous allez lancer sur chaque serveur et qui va être « OK, je me connecte aux autres ou au réseau ou plusieurs applications. Enfin, c'est pas... Je suis curieux de savoir à quel point, au niveau logiciel, de la même manière qu'avec le matériel, c'est différent d'un OS qu'on peut installer sur un PC chez nous, quoi.
Alors, au niveau de l'OS, on reste sur quelque chose d'assez proche. Hein. On installe le système d'exploitation. Alors, une des différences, c'est que pour minimiser le nombre de pannes, de plus en plus, on utilise des machines sur lesquelles on n'a pas de disque dur, ni de SSD, ni quoi que ce soit. Donc, tous les serveurs de calcul, chargent en mémoire, vu qu'ils ont énormément de mémoire vive disponible, ils chargent en mémoire le système d'exploitation. Et du coup, on n'a pas besoin d'avoir de disque dur physiquement dans la machine.
Quand d'accord. Il n'y a pas de stockage. Milliers, c'est juste tout est en mémoire. Et... D'accord, OK.
Et du coup, s'ils ont besoin d'écrire des données à un moment, ils utilisent le stockage rapide.
qui est à disposition.
Qui est déporté, partagé, mais pas sur le serveur lui-même, quoi.
C'est ça.
D'accord.
Et le point important niveau logiciel, c'est qu'il faut que donc toutes ces machines dialoguent ensemble. Donc ça, il y a des couches logicielles. Je donne le nom comme ça si ça intéresse des gens. On utilise beaucoup les modes de communication MPI qui permettent que les serveurs puissent se transmettre des messages au fur et à mesure du calcul pour se donner des informations. Donc ça, c'est une couche logicielle qui se rajoute par-dessus système d'exploitation. Un des points importants d'un point de vue logiciel, c'est que ces machines-là, elles sont partagées par énormément d'utilisateurs. On a rarement un seul utilisateur qui travaille à un moment donné sur la machine. On a beaucoup d'utilisateurs, donc on doit gérer les ressources. Et il y a une partie importante donc de cette infrastructure qui est la gestion de ces ressources et de les partager en termes d'usage et de capacité auprès de tous les utilisateurs. Et donc, on utilise des gestionnaires de job. Donc, en fait, les utilisateurs demandent des ressources, mais ça ne va pas forcément calculer tout de suite. Ça va être en fonction de la disponibilité. Et donc, il y a un logiciel qui tourne en tâche de fond en permanence, qui vérifie quelles sont les ressources disponibles et quelles sont les ressources demandées, et qui va du coup envoyer les jobs utilisateurs sur les ressources dès qu'elles sont disponibles, et qui arbitre en fait cette pression qu'il peut y avoir sur les ressources. Si on a un utilisateur qui demande 100% de la machine, il va devoir attendre qu'il y ait de la place pour lui qui se fasse. Et entre-temps, bah, du coup, il y aura plein de petits calculs un peu plus petits ou un peu plus rapides qui vont pouvoir se faire. Et donc ça, c'est un point important, c'est ce partage des ressources. Parce que l'idéal, vu la consommation et vu le coût des supercalculateurs, c'est qu'ils soient le plus possible utilisés à 100% en permanence.
Ouais, on voit souvent dans les sujets scientifiques, les films même, et je demande du temps de calcul, je pense à des trucs, je sais pas, de science-fiction, d'études de l'espace, tu repères un petit truc bizarre sur ton télescope et tu veux le faire analyser pour voir si c'est des aliens, mais il faut obtenir du temps de calcul sur le supercalculateur de l'université qui coûte très cher, c'est compliqué, machin.
C'est ça, il y a beaucoup de pression notamment sur les calculateurs grand public, entre guillemets, qui sont utilisés par beaucoup d'utilisateurs différents et d'horizons différents. Et il peut y avoir beaucoup de pression pour avoir des heures de calcul. Et donc après, il faut justifier l'intérêt de ces recherches. Et après, une fois qu'on a l'accès, il faut proposer un type de calcul qui soit compatible avec les ressources disponibles et attendre que les ressources soient là.
Une petite question un peu plus pragmatique, ça met combien de temps d'installer un supercalculateur de ce type-là? C'est un projet, bon, j'imagine que ça dépend de la taille bien sûr, mais tu peux nous donner un ordre d'idée? C'est 2 jours, c'est 6 mois, c'est quoi?
Alors physiquement, il y a déjà pas mal de travail physiquement pour poser les machines au sol et les relier au système de refroidissement,
les forêts de câbles, toutes ces choses-là.
Il y a un très très gros travail. On installe classiquement des dizaines de kilomètres de fibres optiques entre les différentes machines pour pouvoir les relier en réseau. Donc ça, c'est des étapes.
Oui, parce que, on parlait de la comparaison au réseau Ethernet tout à l'heure. J'y ai même pas pensé, mais évidemment, tout ça est relié par fibre optique. C'est pas avec des câbles, je sais pas, cuivre, machin classique, quoi.
Alors, ça peut être du cuivre sur des très petites distances, parce que le cuivre coûte quand même moins cher que la partie optique. Donc, quand on a à faire 1 ou 2 mètres, on peut rester avec des câbles en cuivre. Mais dès qu'on dépasse quelques mètres, on a rapidement besoin de passer par des fibres, et du coup après de 5 mètres jusqu'à plusieurs dizaines de mètres, on utilise des fibres optiques, et ça représente des quantités extrêmement importantes de câbles à passer, à optimiser, parce que la place que prennent ces câbles devient importante. Donc il faut penser le réseau et penser l'architecture dans la salle pour que ces câbles puissent passer correctement. Donc ça, c'est une étape qui peut prendre déjà plusieurs jours jusqu'à plusieurs mois sur certains centres. Quand vraiment la quantité finale est très grande, ça peut prendre plusieurs semaines en tout cas ou jusqu'à plusieurs mois. Après, la partie installation logicielle, l'avantage, c'est que une fois que c'est prêt pour une machine, c'est prêt pour quasiment la totalité. Il y a un problème évidemment de passage à l'échelle, mais quand on est capable d'installer un serveur...
Est-ce que tu dois aller sur chaque serveur pour mettre la clé USB et installer l'OS ou
non.
ça se fait en réseau?
Effectivement, oui, ça se fait en réseau pour pouvoir donc démarrer l'ensemble du calculateur d'un seul bloc. Tout est fait à travers le réseau. Et donc, on travaille principalement sur l'installation d'une machine. Une fois que c'est fonctionnel et que tout va bien, on passe à l'échelle et on essaie d'installer la totalité en quelques jours ou quelques semaines. Et une fois que...
Une fois que le matériel est installé, il faut quand même plusieurs jours ou plusieurs semaines pour installer la partie logicielle.
Oui. Et après, c'est parce qu'en fait, c'est pas l'installation elle-même qui prend beaucoup de temps, ça va être son optimisation, puisque c'est ce qu'on disait au début. C'est beaucoup de matériel, mais il faut que ce matériel fonctionne parfaitement ensemble. Et donc, il y a un travail quand même d'optimisation pour que ce soit parfaitement adapté, que ce soit au matériel et aussi à l'environnement du client, en fonction de ses propres ressources,
de son stockage, de tout ça. C'est pas l'OS et le, enfin bon, pas l'OS, mais les applicatifs que tu vas optimiser une fois pour toutes pour le système, ou peut-être c'est parce qu'il y en a pas deux qui sont pareils. Mais pour chaque configuration, tu vas devoir, une fois que tout est installé, l'OS et le matériel et l'OS, tu vas devoir ensuite customiser les paramètres ou le truc sur place.
Oui.
Pour chaque. Oui, mais c'est pourquoi? C'est parce qu'il faut, en fonction de la distance entre les machines ou le nombre de machines, c'est pas que tu peux, je sais pas, tu designes ton ensemble logiciel et puis ensuite t'as un paramètre genre, bon, bah là, il y a 150 serveurs ou là, il y a 3000 serveurs, t'appuies sur un bouton et c'est optimisé pour ce type de truc. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment.
En fait, toutes les briques peuvent intervenir. Donc, comme chaque machine a une spécificité qui fera qu'elle ne ressemblera pas à la précédente, il y a quasi systématiquement un travail à faire d'optimisation vraiment spécifique à chaque calculateur. Parce que un client va avoir besoin de cartes graphiques, donc du coup il y aura tout un travail sur l'intégration de ces cartes graphiques. Le client d'après va te demander d'utiliser un type de stockage qui est légèrement différent, et ainsi de suite. Et en fait, on n'a quasiment jamais deux calculateurs qui sont identiques. Et l'objectif étant d'avoir quelque chose le plus fonctionnel, enfin avec la plus grande efficacité possible. Il y a du travail du coup à chaque fois. Dans les choses un peu simples, enfin qui paraissent simples à la base, mais par exemple chaque machine va avoir son propre nom. Et du coup, il y a tout un tas de fichiers de configuration, de choses comme ça, qui vont dépendre du nom des machines. Donc, si tu as une machine qui s'appelle Toto et que la machine d'après s'appelle Robin, eh ben, tu vas devoir changer tes fichiers de configuration pour qu'ils soient capables d'aller taper sur les bons noms de machine et ainsi
d'accord.
de suite. Donc, il y a des points comme ça qui sont un peu rigolos et simples. Ouais. Mais après, il y a une optimisation qui doit se faire un petit peu à tous les stades. Et surtout, le principal de l'optimisation, c'est pour que les applications finales fonctionnent correctement. Et ça se fait une fois que tout est installé. On installe l'application, on regarde si ses performances sont proches de celles auxquelles on peut s'attendre. Et si c'est pas le cas, là, il y a un travail important pour voir quels sont les points à améliorer pour retrouver une performance
D'accord. J'allais dire, mais tu peux pas le faire dans le développement avant de commencer à installer les machines. Et j'oublie simplement que t'as pas ce système ailleurs, donc t'es bien obligé d'attendre qu'il soit installé.
Non, c'est souvent à flux tendu, hein, c'est rare qu'on puisse avoir, comme on utilise régulièrement le tout dernier matériel, souvent même on est en train de l'installer avant qu'il soit annoncé vraiment commercialement auprès de tout le monde. Enfin, on est très souvent sur vraiment la toute dernière nature et les tout derniers modèles de chaque équipement. On a peu de temps de préparation avant de commencer l'installation.
Ouais, d'accord, bien
donc,
sûr.
On découvre aussi le matériel régulièrement. Pas au dernier moment, parce qu'on a, tout un travail de préparation avec,
vous avez les specs,
avec R&D et tout ça. Mmh. Mais dans la pratique, quand on met à cette échelle-là, on découvre quand même toujours, à chaque installation, on découvre un petit quelque chose qui fait que y a besoin de repenser un petit peu l'installation pour l'adapter et arriver à une performance meilleure.
J'imagine, ouais. D'accord. Super, écoute, je pense qu'on a une bonne image de ce que représentent ces systèmes. Mais maintenant, pour conclure, je pense qu'il serait peut-être bon de parler de l'utilité de tous ces trucs. Pourquoi est-ce qu'on fait tellement d'efforts? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de spécificités qui sont engagées pour les supercalculateurs? Et du coup, la question, c'est à quoi est-ce que ça sert, toutes ces choses-là? On parlait de recherche et de... Enfin bon, je vais te laisser en parler, tu parleras mieux que moi. À quoi ça sert un supercalculateur?
Alors, au niveau des domaines, c'est de plus en plus diversifié. Il y a de plus en plus de domaines qui font appel à ce genre de matériel. Dans les domaines classiques, on a la défense, l'automobile, l'énergie. Je vais donner une liste et puis après, je reviendrai sur certains éléments. La météo,
parce que j'ai déjà 12
questions, santé, l'industrie, la recherche. Donc beaucoup beaucoup de domaines. Alors pour parler un peu plus spécifiquement de chacun, la défense. Donc il y a toute une partie conception des avions de chasse qui repose sur de la simulation et sur de la recherche qui peut être optimisée par l'utilisation de HPC. Dans l'automobile,
c'est
la partie crash
pour
test.
Les avions de chasse, c'est pour l'aérodynamisme, ce genre de choses ou...
L'aérodynamisme, les sonars ou radars, tout ce qui est étude des matériaux pour voir si les matériaux résistent à certaines contraintes. Est-ce qu'ils reflètent les ondes électromagnétiques de la même façon que d'autres? Est-ce que du coup, ils sont
visibles
par des radars?
C'est marrant parce que moi, quand tu me parles de ces choses-là, j'aurais tendance à penser que quand tu parles d'aérodynamisme, c'est une quantité de données finie. Bien sûr, je me trompe, mais je me dirais, t'envoies des flux d'air et puis tu regardes comment ils se déplacent. Mais je me dis, t'as un espace qui est relativement faible. On parle de quelques dizaines de mètres, peut-être un petit peu plus. Est-ce qu'on n'avait pas, on n'est pas déjà arrivé à un niveau où ce genre de calcul pouvait être fait par des supercalculateurs d'il y a 10 ans, tu vois? Parce que quand on parle de climat et qu'on va dire on va faire des simulations sur la Terre entière pendant des jours ou des semaines, là je peux comprendre que oui, plus on a de puissance, plus ça peut être utile. Mais si on réussit à faire des simulations au niveau de la Terre, est-ce que un supercalculateur d'il y a 10 ans ne suffisait pas à faire de la simulation de flux d'air ou du calcul de flux d'air pour un avion de chasse, tu vois, qui est... Et c'est pas le cas, non?
En fait, la simulation ou la modélisation, à chaque fois, on est obligé de simplifier énormément les calculs pour qu'ils soient faisables de façon réaliste. Et du coup, on se retrouve à devoir oublier un certain nombre de paramètres pour être en capacité de faire les calculs. Mais si on augmente la capacité de calcul en parallèle, on finit par pouvoir utiliser davantage de paramètres et donc de faire quelque chose de beaucoup plus précis. Et un autre point, c'est la plupart de ces calculs nécessitent qu'on modélise l'espace sous forme d'une petite grille et qu'on calcule l'événement qui se produit au niveau de chaque point de cette grille. Plus on diminue la taille de cette grille, plus on a de calculs à faire.
Donc en fait, avant, on pouvait regarder, par exemple, sur une carrosserie de voiture, on peut dire, par exemple, que chaque zone sur laquelle on va faire le calcul fait 1 cm², et ça nous donne un résultat moyen qui est correct. Mais si à la place de 1 cm², on fait 1 mm², eh ben on aura quelque chose qui sera beaucoup plus précis. Par contre, il faudra énormément plus de capacité de calcul pour calculer les 1000 mm² qu'il va y avoir dans... je dis 1000 d'ailleurs, peut-être que je me trompe.
Non, en centimètres ou millimètres, c'est 10. Mais en plus, on est en centimètres et millimètres cubes. Donc c'est exponentiel.
Fonction, voilà, si c'est des éléments de surface ou de volume, d'accord, effectivement, ouais. on peut avoir des grilles qui se compliquent beaucoup. Et c'est le cas aussi au niveau de la météo. On peut considérer regarder les régions et avoir une évolution des températures ou des événements climatiques au niveau d'une région ou au niveau d'une ville ou au niveau du kilomètre carré ou au niveau du mètre carré. Alors je pense pas qu'on arrive au niveau du mètre carré au sol, mais l'objectif c'est comme ça de réduire la taille des grilles et du coup ça augmente considérablement la quantité de calcul qui est associée.
Et du coup, je ne sais pas si tu sauras me répondre à cette question, mais quand on parle de ces sujets-là, après je suis sûr que chaque sujet est différent, mais quand on parle de ces sujets-là, le travail du supercalculateur va être de dire, bon ben là on a, je ne sais pas, une projection de particules d'air, de molécules d'air de différentes natures, machin, qui vont arriver dans ce sens avec cette direction et cette force et cette vitesse, vers la carrosserie de la voiture. Et on va dire, bah là, je sais pas, il y a longtemps, je schématise encore, on pouvait avoir 1000 particules, maintenant on peut en avoir 12 milliards qui sont modélisées, évidemment dans la pratique il y en a beaucoup plus, mais on les calcule et on calcule leur déplacement en fonction de la vitesse, de la résistance, de la nature des matériaux, à chaque étape, et j'imagine qu'il y a une dimension temps aussi, parce qu'on va calculer en plus précisément, de la même manière, on peut réduire l'échelle de temps à laquelle on va calculer. Et c'est vraiment ça, c'est le déplacement des particules qu'on va calculer en fonction de tous ces paramètres et de la complexité de l'environnement, c'est ça ?
Alors, je pense que c'est ça. Après, je suis pas trop spécialiste de la partie application purement, parce que souvent c'est moi les étapes que je faisais sur les calculateurs, c'était de tout faire pour que ces applications fonctionnent bien. Par contre, j'étais pas présent au moment où les résultats commencent à sortir, puisque ça c'est de l'ordre du travail du client lui-même. Donc, j'ai pas une connaissance précise de ces éléments-là. Après, sur d'autres sujets, je peux te répondre un petit peu. Par exemple, concernant la chimie, qui est un domaine qui utilise énormément les calculateurs, effectivement, le paramètre de temps et d'espace est très important. Par exemple, quand on veut calculer comment se passe une réaction chimique, on peut prendre une molécule, on peut en prendre 10, on peut regarder qu'est-ce qui se passe en quelques... nanosecondes ou en quelques millisecondes ou en quelques secondes. Et en fonction à chaque fois de ces paramètres-là, on augmente la quantité de calculs qui sont nécessaires. Donc oui, à chaque fois qu'on change l'échelle, que ce soit donc la taille de ta grille ou l'échelle de temps, à chaque fois on augmente beaucoup la quantité de données qui doit être prise en charge et qui doit être calculée par la machine.
Et du coup... Pardon, vas-y.
Et pour l'automobile, je voulais dire aussi, il y a énormément de crash tests qui sont faits. Tous les crash tests commencent par être faits sous forme de simulation par des calculateurs, parce que c'est un des points intéressants dans l'intérêt d'un calculateur, c'est de réduire le nombre d'essais physiques qu'on va devoir faire sur chaque élément, en minimisant donc le nombre de prototypes qu'on va devoir fabriquer à la main. Et donc, avant, si on fait un certain nombre de simulations, on peut réduire le nombre de paramètres qu'il y aura à affiner avec le prototypage. Donc, au lieu de jeter des milliers de voitures contre des murs pour voir comment elles se comportent, on peut simuler comment elles sont censées se comporter, améliorer tout ce qui nous paraît important et qui permet d'avoir un meilleur résultat par l'outil de simulation. Et à la fin, on ne fait plus que quelques essais réels et on voit si ça correspond aux simulations qui avaient été faites avant. Et c'est le cas dans à peu près tous les domaines. Si on arrive à montrer que la simulation permet d'avoir un résultat très proche de ce qu'on obtient avec des prototypes, eh ben on peut énormément réduire le coût du prototypage en faisant davantage de simulations. Et en plus, ça permet de parcourir un jeu de paramètres différents. Par exemple, ça peut être difficile pour une voiture de fabriquer des alliages de 50 natures différentes parce que il faut mettre un peu plus d'acier, un peu plus de machin. Alors que là, on peut simuler comment sont censés se comporter les différents matériaux. Et à la fin, on peut en choisir que deux ou trois et faire les tests avec ces deux ou trois matériaux et voir lequel se comporte effectivement le mieux et si ça ressemble à ce qui avait été prévu.
D'accord, ok. Et du coup, je me rends compte que y a d'autres éléments que tu évoquais, comme le nucléaire, la prospection pétrolière, etc. Donc, ça touche vraiment tous les domaines. J'avais un petit peu cette image de « bon, c'est pour la recherche, c'est très scientifique, c'est machin », mais en fait, bon, c'est des très gros ordinateurs, enfin des gros centres de serveurs, mais ça sert à tous les clients qui ont besoin de très gros ordinateurs, qu'ils soient dans la recherche ou dans ou des clients commerciaux, quoi. C'est vraiment, c'est juste que, bah, c'est comme dire, j'exagère, mais c'est comme dire à qui servent les PC, bah, à tout le monde. Là, c'est un petit peu pareil. Faut avoir des besoins spécifiques, mais ça sert à plein de types d'utilisation et de clients différents.
Oui, bah, par exemple, l'une des plus grosse machine en France est la propriété de Total. Et en fait, la prospection pétrolière est un des gros bénéficiaires du HPC pour tout ce qui est simulation du sol et des couches géologiques qu'il va falloir traverser pour faire les forages, simuler s'il va y avoir des effondrements, s'il va y avoir certaines natures de couches particulières qui seront plus difficiles à percer. Est-ce que les résultats des radars qui ont été faits dans le sol veulent vraiment dire qu'il y a du pétrole ou du gaz, par exemple, au fond de toutes ces couches? Donc, il y a un gros besoin de calcul sur la prospection pétrolière. Le nucléaire est évidemment un point très important, puisque depuis l'arrêt des essais nucléaires réels depuis plusieurs années, maintenant la totalité de la recherche sur le nucléaire passe par la simulation par des supercalculateurs. Et donc ça, c'est un des points qui est important, on y reviendra. Mais la capacité de faire des simulations importantes dans le domaine du nucléaire est un point primordial pour les États qui sont des puissances nucléaires pour prouver de leur capacité de développement sur ces armes.
D'accord, je comprends. Écoute, je crois qu'on arrive vers la fin de notre passionnante discussion, mais j'aimerais quand même te poser une question sur la manière dont les choses évoluent, qui sont les gros acteurs, etc. Mais avec une première question qui est un peu, comment dire, qui va te paraître bête, mais est-ce que tu crois qu'on pourra arriver à un moment à une saturation de la puissance, pas une saturation, mais on va se dire bon bah là c'est bon, on peut calculer tout au millimètre et donc on a plus besoin de plus de puissance, ou est-ce que bon bah c'est comme partout dans l'informatique, non, quand on a plus de puissance on trouve l'utilité et donc il y aura toujours cette version extrême de la technologie d'aujourd'hui, on la pousse autant que possible et on aura toujours l'utilité pour les plus gros supercalculateurs du monde pour les 50 prochaines. Bon, après, on ne sait pas, mais pour le futur envisageable, il y aura toujours de quoi faire avec des plus grosses machines, quoi.
À chaque fois qu'on a l'impression d'atteindre un plafond qui nous paraît difficile à dépasser, quelques années plus tard, on a souvent une technologie ou un acteur qui arrive et qui montre qu'on peut faire nettement plus gros. Donc j'ai l'impression que, vu l'évolution ces dernières années, on reste encore sur une progression très rapide et constante. Donc l'utilisation de ces machines va pas s'arrêter. On trouve des utilisations de plus en plus diverses dans divers domaines. Donc le besoin en termes de quantité va augmenter. Et même en termes de puissance, comme je le disais, il suffit de vouloir faire quelque chose d'un peu plus précis et d'utiliser au final un paramètre que jusque-là on avait caché parce qu'on n'était pas en capacité de le prendre en compte. Et ben demain, avec plus de puissance, si on peut le prendre en compte, on aura un résultat qui sera plus efficace et ça amène l'utilisation de plus en plus grosses machines.
Donc, et tu dis en plus,
j'ai l'impression que ça va grossir.
Tu dis en plus que de plus en plus de domaines l'utilisent, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a la puissance qui augmente et peut-être des supercalculateurs qui sont pas je sais pas dans le top 10 du top 500, et ben les machines un petit peu en dessous, elles peuvent être utilisées par d'autres types d'industries, d'autres types de recherches aussi. C'est ça que tu dis, c'est-à-dire qu'on a des applications aussi qui sont qui s'étendent.
Les domaines, en fait, de plus en plus, notamment dans la partie industrie, des gens qui se rendent compte que faire des simulations leur permet de réduire leurs coûts ou réduire le temps de développement. On voit de plus en plus d'industriels dans des domaines différents. Je disais, par exemple, ça fait plusieurs années, mais les crash tests, du coup, c'est un point important. Tout ce qui est chimie moléculaire, ça peut avoir des implications sur un certain nombre de domaines. Il peut y avoir des acteurs comme L'Oréal, par exemple, qui peut faire de la simulation pour leurs produits. Donc,
au niveau chimique, tu veux dire, pas pour simuler les cheveux, comment ils sont plus soyeux avec le.
Non, après, je sais pas quelle est la nature des recherches qu'ils font dessus, mais non, je pense que c'est plus d'un point de vue,
Peut-être qu'ils font des supercalculateurs pour savoir quelle réaction les gens vont avoir dans le cerveau quand tu vas leur mettre tel ou tel parfum ou tel visage. Est-ce qu'ils vont trouver ça plus ou moins beau?
Je sais pas, on y arrivera. Possible. Je connais pas la nature du domaine, mais.
Est-ce que l'informatique quantique, c'est un truc qui offre des promesses dans le domaine des supercalculateurs aussi, ou c'est trop fondamental encore pour qu'on y pense?
Alors ça commence, les acteurs qui font du supercalculateur classique s'intéressent énormément au domaine du quantique. Pour l'instant, le quantique ne sert pas à faire de la production comme peut le faire un supercalculateur. Pour l'instant, on reste quand même sur de la recherche et du développement concernant le quantique, puisqu'il y a assez peu de machines disponibles et qu'elles sont pas encore parfaites pour faire du calcul régulier. Mais tous les acteurs qui sont dans le domaine du HPC ont un œil très attentif sur le travail sur le quantique. Oui, bien sûr. Et la plupart des programmes de recherche maintenant, quand on parle de HPC, il y a une partie aussi sur qu'est-ce que va donner ce travail-là côté quantique. Est-ce qu'il y a des implications intéressantes? Est-ce qu'il y a des recherches à faire dans cette direction? Donc oui, c'est un domaine qui est annexe pour l'instant, mais qui est très très suivi par tout le monde.
J'imagine que le jour où ça se débloque, si ça se débloque un jour, au-delà des questions qu'on évoque souvent de cassage de l'encryption de la cryptographie, du chiffrement, toutes ces questions de calcul parallèle massif vont être complètement révolutionnées si vraiment on peut.
C'est ça. Le quantique aura sûrement un intérêt sur certaines natures de calcul, mais ça remplacera pas tout ce qui est fait actuellement. Il y a certaines natures de calcul qui sont particulièrement efficaces avec des algorithmes quantiques, d'autres beaucoup moins. Et ça laissera de la place, du coup, aux deux types de machines, avec certaines qui seront quantiques et qui seront dédiées à certains usages, et d'autres classiques qui continueront sur les usages sur lesquels la partie classique est plus efficiente.
Bon, on finit avec une question rigolote, un petit peu, ou un peu plus détendue, on va dire. C'est quoi ces histoires de top 500? Qui les fait? Qui sont les gros acteurs? Genre, est-ce que la France, on est bon en supercalculateur pour la conception et pour qui a les plus gros? Qui a le plus gros supercalculateur? Ce genre de choses. Est-ce que c'est les services secrets? Est-ce que c'est l'armée? Est-ce que c'est ce genre de choses? Comment il évolue ce milieu au niveau des... Enfin, comment il est établi ce milieu, le panorama avec les acteurs?
Donc, il y a effectivement une liste qui s'appelle le Top 500, qui est une liste qui est mise à jour deux fois par an autour de juin et novembre, qui recense les plus gros supercalculateurs, donc les 500 plus gros supercalculateurs actuellement installés. Alors, une petite information importante, c'est que c'est les 500 plus gros déclarés. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un certain nombre de calculateurs qui sont aussi gros ou beaucoup plus gros peut-être pour certains, qui ne seront pas publics parce que l'entité qui le gère n'a pas d'intérêt à le déclarer dans cette liste.
Ouais. Donc, j'imagine que les services secrets, l'armée, ils en ont quelques-uns qui...
C'est ça. Donc, il y a toute une partie qui est cachée et qui n'est pas du tout publiée dans cette liste. Mais il y a quand même beaucoup d'acteurs qui ont un intérêt à démontrer de la puissance de calcul qu'ils atteignent avec leur machine, que ce soit... rien que pour justifier de l'usage de l'argent qu'on leur a fourni, je pense notamment aux centres de recherche ou choses comme ça, c'est souvent de l'argent public qui est en partie utilisé. Donc démontrer que par rapport à la concurrence on est bien situé permet de justifier que l'argent a été correctement utilisé. Il y a toute une partie aussi, donc comme je
pardon,
le disais...
Pardon, sur la question du top 500, tu disais, je ne sais plus si c'était dans l'émission ou avant quand on en parlait, tu me disais qu'il y a vraiment une sorte de bench, de geekbench, quoi, qu'on fait tourner quand la machine est installée. Et c'est comme ça qu'on établit le top 500. C'est comme c'est le truc de Kéké qui fait tourner son geekbench pour voir que sa machine est plus forte que celle du voisin. C'est exactement ça, c'est un logiciel de benchmark qui tourne dessus.
C'est un logiciel qui s'appelle donc un LeanPack et qui est un calcul matriciel très très complexe qui utilise la totalité des ressources disponibles du calculateur et le résultat final qui est donné en pétaflop par seconde ou moins suivant la puissance du calculateur va donner son classement dans la liste du top 500. Et donc le but effectivement c'est de voir qui a le meilleur résultat. Et donc, pour avoir ces résultats-là, il faut le plus possible de machines en parallèle. Il faut qu'elles ne tombent pas en panne pendant toute la durée du calcul, qui peut être de plusieurs heures jusqu'à même plusieurs dizaines d'heures pour les calculs les plus complexes. Donc, c'est tout un test complexe et à mettre en place en début de vie du calculateur pour démontrer de sa puissance. Et effectivement, à la fin, on publie ça auprès de l'association, l'entreprise, je ne sais plus qui est responsable de ce top 500, mais ça permet effectivement de comparer les puissances de ces machines.
Et du coup, au niveau des pays, au niveau des... Peut-être d'une part les fabricants, et puis ensuite les pays qui sont les gros, gros acteurs. On parlait de HPE, de IBM...
C'est ça. Donc, dans les très très gros acteurs de ces dernières années, il y a des acteurs qu'on connaît bien, donc HPE, IBM, sont des acteurs américains.
Pardon, il y a peut-être des gens qui n'ont pas suivi, mais HP s'est séparé en deux entreprises il y a quelques années. HP d'une part, Hewlett Packard d'une part, et HPE qui est HP Entreprise d'autre part. Et HP Entreprise, ils font des trucs à plus grande échelle. Donc c'est ça, HPE.
Oui. Donc HPE et IBM sont parmi les leaders. On a Dell qui fait aussi quelques calculateurs. On a Lenovo qui a racheté une branche de IBM il y a plusieurs années et qui fait donc des supercalculateurs maintenant de son côté aussi. Côté européen, on a Atos qui par son ancienne entité Bull fabrique des supercalculateurs européens. Et on a aussi des sociétés chinoises qui sont moins connues de notre côté de la planète, mais qui ont un certain nombre de machines classées au top 500. Donc j'ai noté Inspur et Sugon. Je suis désolé pour la prononciation, mais c'est des entreprises qu'on ne connaît pas trop en Europe, mais qui présentent un certain nombre de machines au top 500, principalement en Chine et dans les pays asiatiques.
Une question comme ça, en plus, bonus, ça coûte combien un petit supercalculateur ? Genre, est-ce que tu as idée de combien coûte un supercalculateur qui serait dans le bas du top 500, par exemple, pour nous
dans le bas du top 500
c'est déjà... Mais déjà, Alors, pardon, question préliminaire. Il y a combien de supercalculateurs dans le monde, tu sais? C'est 2000, 10 000, 20 000 ou on ne sait pas?
Je ne sais pas du tout. Après, il y a toujours une difficulté à dire à quel moment on considère qu'une machine qui est à plus que quelques serveurs devient vraiment un supercalculateur. La frontière est assez difficile à dessiner. Mais là, le top 500, c'est vraiment les 500 plus grosses, mais ça oublie une très grande majorité des calculateurs qui sont pour des besoins, par exemple, de recherche dans des laboratoires ou dans des entreprises pour faire un peu de simulation et qui ont soit pas la taille, soit pas l'intérêt de le classer. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup plus que ces 500. Par contre, je ne saurais pas en dire le nombre exact.
Mais le prix pour rentrer dans le top 500, tu as une vague idée de à quoi ça pourrait correspondre
Je ne saurais pas dire pour le top 500. Les machines commencent à quelques... Enfin, un serveur simple, juste un seul, on peut facilement être de l'ordre de 20 000 euros, par exemple, pour un seul serveur. Parce qu'avec les processeurs qui coûtent cher, la mémoire, pour peu qu'on mette des processeurs graphiques dedans, on arrive à des sommes qui sont de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros par serveur. Donc quand on multiplie par 200, 500 serveurs ou par 5000 serveurs, ça fait des sommes conséquentes.
Oui. 5000 serveurs, il y a des... Il y a le plus gros... Pardon, je te laisse finir. Tu dis on est au minimum hein.
Au minimum, on va dire qu'on est à quelques centaines de milliers d'euros pour avoir un calculateur de taille minimale. On va dire 200, 300 000 euros. Ça permet d'avoir à la fois le réseau rapide, un certain nombre de serveurs et toute l'infrastructure qui va avec, hors data center, évidemment. Et par contre, les plus gros coûtent plusieurs dizaines de millions d'euros. Compter la partie data center qui peut aussi représenter une somme importante, mais sur laquelle
l'emplacement physique, quoi.
L'emplacement physique et toute la construction du data center, le coût de l'électricité, tous ces points-là. Ça, c'est un point qu'on n'a pas évoqué, mais c'est des machines qui consomment énormément en termes d'électricité et du coup, c'est des machines qui coûtent énormément en termes de
maintien, coût, de coût,
d'entretien
et de coût
sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y a un gros prix d'achat, ça c'est clair, mais il y a aussi un gros coût d'entretien et d'utilisation, que ce soit donc pour l'électricité ou potentiellement pour la maintenance, puisqu'on a un taux de panne qui est conséquent. Le taux de panne est bas, mais vu le nombre de machines, ça fait quand même un certain nombre de maintenances à faire au long de la vie de la machine.
Et du coup,
je pense que c'est des machines qui durent entre 3 et 5 ans pour rester au top niveau. On va dire que la plupart sont sur des cycles, on va dire, de 3 à 5 ans. Un peu plus long pour certains quand on n'a pas besoin des dernières technologies. Mais à un moment, c'est le taux de panne qui commence à devenir trop important pour rester intéressant. C'est-à-dire que si la machine qui est en panne tous les 3 jours parce que on a un équipement puis un autre qui tombe en panne, au bout d'un moment c'est plus très utile.
Mais s'il y a un serveur qui tombe en panne, la machine fonctionne quand même, rassure-moi.
D'accord. C'est extrêmement redondant et extrêmement tolérant en panne, notamment sur les plus grosses infrastructures. C'est un des points qui est designé en tout premier lieu, c'est avoir quelque chose qui n'ait aucun élément qui provoquerait la chute de la totalité en tombant en panne. Donc on va se débrouiller pour le plus possible de réseaux redondants, pas de serveur unique qui ferait une tâche et qui serait indispensable. Donc on éclate les tâches sur plusieurs machines pour que si une tombe en panne, une autre puisse prendre le relais. Le réseau, il y a plusieurs trajets possibles pour que la machine soit accessible, et ainsi de suite. Donc oui, ça, c'est très tolérant en panne.
Bon, dernière question. En France, on est comment niveau supercalculateur? Est-ce qu'on peut être fier de notre position? J'imagine que les plus gros sont en Chine, aux États-Unis, ce genre de choses, mais on est comment chez nous?
Eh ben, on est relativement bien classé. On est un pays qui a une culture HPC très forte, et du coup, qui a des machines très régulièrement classées au top 500. Je disais tout à l'heure, les machines de Total sont régulièrement très bien classées. Le CEA classe très régulièrement des machines dans les 20 premières machines du monde.
C'est quoi le CEA ?
Le CEA, c'est le commissariat de l'énergie atomique.
L'énergie atomique, oui, d'accord.
C'est donc l'entité française qui est responsable notamment des recherches sur la simulation nucléaire et sur le développement des armes nucléaires. Donc, ça fait partie des acteurs qui ont besoin de cette puissance et qui ont aussi besoin de classer leurs machines au top 500. Et c'est ce qu'on voit aussi aux États-Unis. Leur entité équivalente, qui est le Department of Energy, classe la plupart de leurs machines dans les 10 premières machines du monde. Et justement, là, le classement qui a été publié en juin, les Américains sont 1er, 4e, 5e, 7e et 8e dans le top 10 avec des machines, et la plupart sont du Department of Energy. Donc c'est soit des machines qui sont faites pour la simulation nucléaire, ou alors c'est des machines de recherche qui sont ouvertes à des labos de recherche d'un peu partout aux États-Unis pour la recherche fondamentale et le développement, on va dire, étatique.
D'accord. Les autres du top 10, c'est qui ?
Donc il y a donc la première, c'est une machine américaine qui a écrasé le top 500 cette année, puisque c'est la première machine qui dépasse l'exaflop. Donc l'exaflop, c'est 1000
très puissant
pétaflops.
1000 pétaflops, d'accord.
Et un pétaflop, c'est 1000 teraflops, et ainsi de suite. Donc c'est la première machine qui atteint cette barre symbolique.
Je vais essayer de donner une idée avec les chiffres que je connais. Dans les machines, les consoles de nouvelle génération, on est de l'ordre de 10 teraflops. Donc, comme tu le disais, 10 teraflops pour une machine de consommation normale d'une console. J'imagine que certains ordinateurs peuvent faire autant ou un peu plus d'ordinateurs personnels. Et donc ensuite, on a les pétaflops qui sont 1000 teraflops et les exaflops, donc le truc qui a été atteint ce mois-ci, qui est le niveau de puissance
encore
le
stade
plus
élevé qu'on
ait. Ouais.
Et qui était une frontière qui est difficile à atteindre parce que ça nécessite du coup un très très grand nombre de machines et un environnement parfaitement optimisé pour atteindre. On a un passage à l'échelle qui devient de plus en plus compliqué avec le nombre de machines. Et donc là, la barre de l'exaflop était quelque chose qui était attendu, mais qui était compliqué à atteindre. Et l'arrivée des accélérateurs, donc des GPU dans les supercalculateurs, comme on le disait tout à l'heure, permet de diminuer le nombre de machines et du coup d'avoir plus de puissance par machine et de passer cette barre un peu plus facilement que si on avait que des CPU qui devaient calculer tous ensemble.
D'accord.
Donc cette machine américaine donc a passé le pétaflop. Ensuite, on a une machine japonaise qui est sur base ARM. Donc, je disais que c'est difficile de tout optimiser,
même,
mais la celle qui a été pendant plusieurs mois, la première du top 500 était sur base ARM. Et la troisième, ça va te parler, c'est une machine qui est installée en Finlande et qui vient d'être installée cette année par HPE, qui s'appelle Lumi, et qui est donc située, il me semble, dans le nord de la Finlande, et qui est une machine...
Plus facile à refroidir là-bas.
Oui, c'est ça. Et puis à alimenter en électricité, du coup, avec de l'hydroélectrique. C'est vraiment un point intéressant pour eux. Et c'est une machine qui est d'un consortium qui s'appelle EuroHPC, qui est un consortium européen qui va financer un certain nombre de machines en Europe pour atteindre des puissances de calcul proche de celles qui sont fournies aux États-Unis, histoire de rendre l'Europe plus autonome de ce point de vue-là et aussi performant que d'autres pays du monde. Et donc c'est la première qui se classe aussi haut dans le classement, donc elle est troisième mondiale avec cette machine. Et la première machine française, tu me demandais, c'est une machine qui est située du côté de Montpellier, qui s'appelle Adastra. C'est une machine pareil de recherche financée par l'État français, par le GENCI, qui est l'organisme français qui propose des puissances de calcul pour le domaine de la recherche par l'intermédiaire de très grosses machines nationales. Donc la première, elle est dixième avec Ad Astra à Montpellier. Et la deuxième machine française, c'est de ne pas dire de bêtises, c'est la machine du CEA qui est actuellement 17e, qui est donc une machine, là pour le coup, qui n'est pas ouverte au public, mais qui est dédiée à la recherche du CEA sur le nucléaire.
17e, je ris. 17e, qu'est-ce que c'est que ça?
C'est une machine qui est 100% CPU. Donc, il n'y a pas d'accélérateur sous forme de GPU.
Non, mais...
Donc, ça, c'est un des points qui devient difficile à comparer. C'est qu'on compare maintenant des machines qui ont des architectures qui sont de plus en plus hybrides. Certaines, donc, qui sont dédiées au calcul avec des processeurs et d'autres qui ont ces GPU qui augmentent la puissance de calcul, mais pour lesquelles les applications doivent être optimisées.
Ok, bah écoute, je pense que ça nous fait un beau tour d'horizon de l'univers merveilleux et impitoyable des HPC. Je voudrais te remercier très chaleureusement de nous avoir prêté ton expertise et ta sympathie, Romuald.
Merci à toi.
Est-ce que tu as, avant qu'on se quitte, d'abord, est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire, peut-être, des questions que je t'ai pas posées auxquelles tu voulais évoquer?
Non, je pense qu'on a à peu près tout dit. J'espère avoir rien oublié. Et si besoin, tu pourras faire un update dans un prochain épisode.
Ça marche, avec plaisir. Et du coup, est-ce que tu as une présence publique sur le net, un compte Twitter, quelque chose qu'on...
Non, pas spécialement. Je suis actif sur le Discord de la communauté, mais pas particulièrement. Je publie rien de particulier concernant le HPC pour l'instant.
D'accord. Mais écoute, non, mais c'est très bien. Du coup, c'est quoi ton pseudo sur le Discord? On va recommander ça.
Je vais mettre Romuald. Je vais le changer pour être plus facilement retrouvable.
Super. Eh bien, écoutez, si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, c'est toujours un bon moment passé ensemble. Le lien est sur notepatrick.com, comme est d'ailleurs le lien vers tous les podcasts que je fais, vers le Twitch pour regarder en live, vers tout. Et bien sûr, vers le Patreon, patreon.com/rdvtech. Si vous appréciez les émissions, vous savez que vous pouvez contribuer financièrement à l'existence de ce podcast. Et vous pouvez le faire très facilement en allant sur patreon.com/rdvtech, même pas besoin d'un super calculateur, vous pouvez le faire avec votre téléphone. Qui en même temps, je me demande... j'aurais dû te demander avant, mais on parlait de 10 teraflops. À quelle époque, est-ce que tu te souviendrais à quelle époque 10 teraflops c'était considéré comme un super calculateur?
Je le saurais pas comme ça, par contre. Sur le site du Top 500, il y a l'historique depuis 1993 des listes. Et donc, je vais pas te faire perdre du temps à chercher tout de suite, mais je peux regarder sur la toute première liste du Top 500, donc de juin
93. Vas-y, si tu peux le faire maintenant, c'est rigolo. Ouais.
On est à 59 gigaflops.
Ah, quand même, déjà. Ok, en 93, on était quand même... Gigaflops. Ah, mais oui. Donc, on était bien en dessous, du coup. Mais évidemment, oui, c'est normal. D'accord. Donc, à un moment, entre 93 et...
Là, par exemple, en 2004, la première machine était à 35 teraflops.
Oh, 2004 ? Ça veut dire qu'en moins de 20 ans, bon, peut-être qu'on était, si on prend 2002, on imagine qu'on sera un petit peu en dessous. On est sans doute au niveau du top 1 de il y a 20 ans, à peu près, plus ou moins, avec une machine qu'on peut acheter à 500 euros aujourd'hui. C'est dingue.
C'est, oui.
20 ans. En 20 voilà. ans. Oh, oh là 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 là.
J'essaye de revenir dans le passé pour trouver pour une trouver machine qui soit à peu près à 1 teraflop.
À 10. C'est... Ouais. On est à 10 aujourd'hui. Donc. On est un peu
voilà, donc 10, début des années 2000.
D'accord. Oh, début des années 2000, on avait les plus gros supercalculateurs avaient autant de puissance qu'une PlayStation 5 ou une Xbox Series X aujourd'hui. C'est dingue. Et on se sert de tout ça pour faire quoi ? pour jouer à des jeux vidéo super beaux. Moi, ça me paraît pas mal comme utilisation, mais bon, je suis peut-être un petit peu biaisé. Bref, quoi qu'il en soit, vous pouvez, si vous aimez les questions de jeux vidéo, écouter le rendez-vous jeu, dont les liens sont aussi sur notrepatrick.com. Et bon, bref, tous les liens sont, Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur le Discord si vous pouvez, voulez parler de tout ça et de plein d'autres choses, d'écouter Super Laser Punch si vous voulez des comptes rendus de séries Marvel, Star Wars, trucs de geek. C'est toujours un bon moment. Et puis nous, on se retrouve. Alors, je ne sais pas exactement comment seront organisés les épisodes de l'été. Y aura a priori un épisode la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça sera moi, quelqu'un d'autre. On verra. Mais on sera là la semaine prochaine. Donc, on vous donne rendez-vous à ce moment. Et on vous fait de gros, gros bisous. Merci Romuald. À la prochaine.
Merci.
Ciao.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.